jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Pays Basque.
On vous dit tout ce matin dans La Vie en Bleu sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire, avec les docteurs Julie Halimi et docteur Aurélie Valade. On peut définir un trouble du comportement alimentaire? Qu'est-ce qui se cache derrière,
Julie Halimi? Comme son nom l'indique, ce sont surtout des perturbations graves du comportement alimentaire et qui vont avoir un important retentissement sur le bien-être psychologique, familial, social, scolaire ou professionnel. Il en existe vraiment trois grands types, c'est l'anorexie, comme on disait, la boulimie et l'hyperphagie boulimique.
Ouais. À partir de quel moment on se dit, bon là il y a un problème de comportement alimentaire, à partir de quel moment c'est anormal en fait? On considère que c'est anormal?
Alors, c'est anormal quand l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte a une dévariation importante de son poids, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Donc, on parle de variation rapide pondérale. Quand ces troubles du comportement alimentaire retentissent sur ces relations sociales, familiales, professionnelles, qu'il a tendance à se replier sur lui-même et à s'isoler.
Quand il y a vraiment une répétition en fait de ce comportement qui va avoir des conséquences négatives sur leur fonctionnement.
Alors le 2 juin prochain, c'est la journée mondiale des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Je crois que le confinement n'a pas arrangé les choses en matière d'anorexie. 30% de cas en plus, je crois, c'est considérable en fait.
Exactement, de troubles alimentaires. 30%.
Comment on l'explique ça? C'est quoi? C'est le fait de devoir rester enfermé?
L'isolement social favorisé par la pandémie Covid, le stress occasionné par tout ce qui peut se dire autour de cette épidémie induit beaucoup d'anxiété chez les jeunes. Le fait de ne pas avoir de rapports sociaux avec les jeunes de leur âge favorise le repli sur soi et l'émergence de ces troubles des conduites alimentaires.
L'anorexie, c'est vouloir maigrir à tout prix, c'est ça? C'est une distorsion de l'image du corps
Ouais, exactement. En fait, l'anorexie, au début, ce n'est pas spécialement une perte de l'appétit, comme on pourrait le croire, mais c'est vraiment une lutte active contre cette faim, une lutte active contre l'appétit.
Me vois trop gros, trop grosse, c'est ça, et je veux absolument perdre du poids, je veux maigrir.
Exactement. Et la nourriture devient une obsession, on est focalisé dessus, en se restreignant de manger, et du coup, on utilise des techniques comme le sport, le jeûne, et même parfois certains médicaments.
Je parlais de distorsion d'image, c'est-à-dire qu'on ne se voit pas réellement comme l'on est, on se voit plus gros que l'on est.
On se voit plus gros que l'on est, et il y a vraiment une obsession de ça. Et puis notre influence, elle est excessivement influencée par la façon dont on se voit.
Est-ce que les réseaux sociaux, finalement, ça favorise pas ça? Parce qu'on veut se photographier, on veut se montrer sur son meilleur jour.
L'image véhiculée par les médias, par les réseaux sociaux de la corpulence idéale est biaisée dans notre société actuelle. Tous les adolescents ont des problématiques d'image corporelle, de poids, peuvent se poser à des moments dans leur vie d'adolescent. Est-ce que je suis pas trop grosse? Malgré tout, tous les adolescents ne deviennent pas anorexiques ou ne présentent pas de troubles du comportement alimentaire, même si cette maladie est relativement fréquente. Donc il faut faire preuve de finesse pour mettre en évidence les troubles et prendre en charge le plus tôt possible ces jeunes, puisqu'on peut les aider à guérir de ces troubles.
Des troubles qui s'installent souvent à l'adolescence, c'est ça?
Effectivement, ce sont des troubles qui surviennent surtout chez les jeunes de moins de 25 ans, avec une fréquence, un âge d'autant plus jeune pour l'anorexie. Souvent, l'anorexie, les premiers symptômes apparaissent entre l'âge de 14 ans et 17 ans, avec des extrêmes. On voit des cas d'anorexie chez les enfants à partir de 8 ans, même si c'est très rare, et des cas au-delà de 18 ans, même si c'est aussi plus rare de développer une anorexie au-delà de l'âge de 18-20 ans.
Alors, ces maladies sont prises en charge, on va le voir tout à l'heure, évidemment, mais est-ce qu'on arrive à en guérir? Alors, si ça commence effectivement à moins de 25 ans, est-ce que quand on arrive à la quarantaine, on en est débarrassé?
On arrive à en guérir. Malheureusement, il y a moins de la moitié des cas qui sont dépistés et qui ont accès à ces soins. Mmh. Et du coup, on y est d'autant plus sensible parce qu'on sait qu'avec une bonne prise en charge, on peut s'en sortir. Dans 70% des cas, on s'en sort.
Et pourquoi finalement il y en a très peu qui sont dépistés
Eh ben justement parce que il y a un manque de sensibilisation à ce problème des professionnels,
des parents,
professionnels, et c'est pour ça qu'on est là et que justement il y a la première journée mondiale des TCA qui aura lieu le 2 juin et vous pouvez trouver toutes les informations sur leur site journeemondialetca.fr pour nous rappeler comment on dépiste un trouble du comportement alimentaire, quelles sont les prises en charge, et à travers la France il va y avoir vraiment plein de webinaires, de conférences et d'animations.
Bon, on en parle ce matin avec vous. Venez nous rejoindre, venez témoigner si vous êtes concerné ou si l'un de vos enfants est concerné justement par l'un des troubles alimentaires. Vous êtes les bienvenus, soit pour témoigner ou poser une question. Bien sûr, c'est le même numéro de téléphone, 05 59 59 17 17. Vous pouvez commencer à nous appeler maintenant.
Construire du bonheur, je t'en ferai des tonnes, je t'en ferai des tours, j'en ferai des gratte-ciel. Si je pouvais construire
Jean-Louis Aubert sur France Bleu.
9h-11h, c'est La Vie en Bleu sur France Bleu Pays Basque.
On s'intéresse au TCA ce matin, aux troubles du comportement alimentaire avec nos invités, le docteur Julie Halimi, pédopsychiatre à la clinique Château-Cardot qui se trouve à Bayonne, et puis le docteur Aurélie Valade, pédiatre au centre hospitalier de la Côte Basque. On a parlé de l'anorexie, on va parler maintenant de la boulimie et de l'hyperphagie boulimique. Alors boulimie ok, hyperphagie boulimique peut-être un petit peu moins, on peut expliquer la différence entre les deux?
Oui, justement l'hyperphagie boulimique ce sont des crises de boulimie, mais sans ce qu'on appelle les comportements compensatoires associés, c'est-à-dire que à côté, la personne ne va pas essayer de se faire vomir.
Donc il n'y a pas de remords après, c'est ça ? Une fois qu'on a beaucoup mangé, on a ingéré beaucoup de nourriture.
Il y a beaucoup de culpabilité,
oui.
Sauf qu'en fait, comme vous ne mettez pas en place des stratégies pour perdre du poids, en général, vous êtes en surpoids ou en obésité. Et c'est vraiment un des troubles alimentaires les plus fréquents, mais qui est peu connu, parce que on en parle finalement que depuis 2012, alors que vraiment, ce sont des personnes qui ont un grand mal-être, comme je vous disais, une grande honte, qui sont très déprimées, et souvent même qui mangent seules, qui s'isolent, parce qu'ils ont honte de la quantité qu'ils absorbent. C'est ça, les crises de boulimie ou de gloutonnerie, c'est qu'on mange sur un très court temps beaucoup de nourriture avec un sentiment de perte de contrôle.
Ouais, mais on est dans ce pays de bon vivant quand même au Pays Basque. Alors, comment faire la différence ? Où se situe la ligne en fait entre effectivement tu manges bien peut-être un petit peu trop ou là c'est vraiment trop et là ça va pas et ça relève de la maladie ?
Eh ben justement on travaille en partenariat étroit avec le docteur Valade parce que c'est vraiment quand ça a des conséquences sur notre santé psychologique et comme je le disais au début quand ça nous isole familialement et socialement du reste du monde.
Oui, parce que effectivement, là, on parle de psychologie et de maladie. Voilà, on joue sur les deux tableaux en fait. Là, c'est ça. Il y a un impact sur les deux tableaux. La psychologie est très importante dans ces maladies.
Bah exactement. C'est même à l'origine de ces troubles alimentaires où il y a vraiment une mauvaise image de soi et puis du coup on a un sentiment de détresse important et on ne sait pas comment y faire face, alors on va utiliser le trouble alimentaire, ce comportement alimentaire pour remédier à ces angoisses. Et d'ailleurs on parle d'addiction sans drogue ou d'addiction comportementale hein, quand on parle des troubles du comportement alimentaire, donc c'est bien que ça vient soulager un mal-être.
Vous avez laissé vos questions sur le site du centre hospitalier de la Côte Basque. Alors, il y a eu pas mal de questions, beaucoup de dames qui ont laissé des questions. Il y a Sandrine, notamment, qui dit « Ma fille a une corpulence normale, mais elle se trouve très grosse et fait très attention à ce qu'elle mange. Est-ce qu'il faut que je m'inquiète ?»
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. La problématique de l'image corporelle à l'adolescence, elle est normale et elle concerne énormément d'adolescents. Mais malgré tout, tous les adolescents n'ont pas un trouble des conduites ou du comportement alimentaire. Je pense que Sandrine doit faire attention si sa fille porte une attention très particulière à son alimentation et si l'attention que cette jeune fille porte à son alimentation va avoir un impact sur son équilibre alimentaire. Voilà, les jeunes filles qui développent une anorexie, elles vont éliminer progressivement les féculents, les aliments sucrés, les aliments gras, les matières grasses. Elles vont aussi réduire la quantité d'aliments ingérés.
Ça, c'est le principe du régime.
Oui, on peut appeler ça. J'aime pas trop ce mot de régime,
oui, bien
en fait.
Sûr, mais bon.
Mais oui, effectivement. Mais là où c'est pathologique, c'est que
c'est à l'excès.
C'est à l'excès, exactement. Et ces adolescentes sont obsédées par l'alimentation. Elles pensent 24 heures sur 24 à ce qu'elles vont manger, à ce qu'elles ont mangé. Et cela suscite énormément d'anxiété et d'angoisse chez ces jeunes filles.
Justement, quand on soupçonne pour son enfant des comportements, un comportement pas très très normal, alors boulimique, anorexie, je fais comment ? Quelle est la première chose à faire en tant que parent ? À qui je dois m'adresser ? Parce que c'est souvent un peu perdu en fait. Hein. On en parle à son généraliste, comment ça se passe en fait ?
Effectivement, je pense que le médecin généraliste est le premier relais pour parler de ces difficultés. Et ensuite, le médecin généraliste saura orienter son patient, s'il le juge nécessaire, vers des professionnels aguerris à la prise en charge de ces troubles des conduites alimentaires.
Les jeunes sont volontaires, ils viennent volontairement, ils acceptent de venir.
Alors c'est ça qui est compliqué, notamment dans l'anorexie, car il y a un déni important de la maladie. Donc il faut faire preuve de beaucoup de bienveillance, de patience pour prendre en charge ces patients et les amener à consulter. Donc peut-être dans un premier temps écouter les parents et réfléchir à comment amener l'adolescente à accepter de consulter et de se faire aider.
Psychologie des parents, c'est-à-dire qu'il faut que les parents fassent preuve de psychologie pour convaincre l'enfant, lui expliquer que c'est son intérêt d'aller consulter.
Oui, oui, et c'est d'autant plus dur que vraiment le jeune s'est construit autour de ce comportement alimentaire, ça fait partie de son identité, et il ne voudra pas s'en détacher, et pourtant on rappelle vraiment la place importante des familles, la place fondamentale des familles dans le processus de traitement et de guérison du patient.
Ouais, mais est-ce que le jeune se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même, ou pour lui c'est normal, ça lui semble être normal, c'est sa normalité?
En général, la personne ne se rend pas compte, est dans un déni, et donc c'est vraiment de la responsabilité du médecin généraliste, qui est le médecin de premier recours, de l'aider à en prendre conscience, en lui posant peut-être une question toute simple. Ouais. Est-ce que tu penses que tu as un problème avec ton poids et ton alimentation? Et objectivement, en général, l'enfant arrive à reconnaître et s'engager dans des soins. Mais il faut vraiment que ça puisse passer par un tiers.
D'accord. Bon, on va voir justement quelles sont les prises en charge dans un instant. Si vous voulez témoigner ou poser une question, vous êtes les bienvenus. 05 59 59 17 17. 05 59 59 17 17.
La vie en bleu avec Orpi au Pays Basque. 20 agences pour vendre, louer et faire gérer votre bien en toute tranquillité.
France Bleu. Envie de vous faire plaisir et de faire gonfler votre portefeuille cette semaine dans sa colo basque. Jouez, répondez à un maximum de questions, devenez Chapeldoune et repartez avec une carte cadeau d'une valeur de 500 euros. Vous voulez refaire votre garde-robe, changer de télé, envie de faire plaisir à vos proches, c'est vous qui choisissez comment les dépenser. Sa colo basque, c'est sur France Bleu Pays Basque du lundi au vendredi à 8h50 et bien sûr entre 11h et midi.
Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. À La Monteille, à Échirolles, dans l'Isère, nous dit pourquoi.
Moi, j'avais besoin de lunettes. J'ai pris rendez-vous qu'on ne faisait pas avant. Il y avait du gel hydroalcoolique, un parcours au sol. Des plexiglas sont montés sur le comptoir. Donc, on peut essayer les lunettes sans les masques. Les tests de vision, c'est fait à distance. Il n'y a pas de contact physique. Une fois qu'on est dans le magasin et qu'on voit que tout se passe bien, on n'a plus ce sentiment d'insécurité. Je trouvais ça formidable.
Nathan Cohen, opticien Optique 2000 de Monsieur Monteille, à Échirolles, dans l'Isère.
Dans notre magasin, nous sommes des opticiens professionnels. La santé de nos clients est notre priorité, donc nous avons mis en place le maximum de gestes barrières. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous gérons tous les papiers.
Alors Monsieur Monteil, content d'Optique 2000?
Oui, très, et en plus, il s'occupe de tous les papiers. Pour moi, c'est parfait.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
France Bleu, Pays Basque.
Le ciel est nuageux ce matin et ça ne s'améliore pas cet après-midi. Des nuages qui seront encore plus menaçants avec quelques averses possibles ici ou là au Pays Basque avec des vents de sud modérés et des températures qui vont rester quand même très basses aujourd'hui. En étant de ça des normales, on attend 14 degrés au mieux cet après-midi. Anda, il fera aussi 14 degrés sur le littoral à Anglette, à Biarritz, place Clémenceau, 14 degrés. Et seulement 15 degrés, 1 degré de plus quand même à Mauléon, Saint-Étienne de Baïgorry et Musculi. Il est question de TCA ce matin dans La Vie en Bleu avec nos invités jusqu'à 10h moins le quart. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through take me, I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down, Robbie Williams sur France Bleu.
France Bleu Pays Basque, la vie en bleu jusqu'à 11h.
Le 2 juin prochain, ce sera la journée mondiale des TCA, des troubles du comportement, de l'alimentation, et on en parle ce matin avec nos invités, le docteur Julie Halimi, le docteur Aurélie Valade. Je voudrais qu'on parle maintenant de la prise en charge. C'est important, évidemment, à partir du moment où on a réussi à convaincre l'ado d'aller voir un spécialiste, le médecin. Comment ça va se passer? Quelle est cette prise en charge après, peut-être, au docteur Julie Halimi?
La prise en charge, elle est vraiment pluridisciplinaire, comme on vous l'expliquait. Elle est sur 4 axes principaux, somatiques. Et là, ce sont nos collègues endocrinologues et pédiatres qui vous en parleront mieux, nutritionnels. Et puis, il y a une prise en charge psychologique et sociale.
D'accord. Alors, pour faire simple, c'est ça, on repart avec quoi? Avec un document, des préconisations sur l'alimentation, c'est ça?
Alors, c'est vrai que quand les adolescents arrivent à ma consultation, en fonction de la sévérité de l'état de la dénutrition, on va établir avec eux ce qu'on appelle un contrat de poids.
Ça, c'est pour l'anorexie.
Oui, c'est pour l'anorexie. Voilà, pour l'anorexie, on va établir un contrat de poids et avec des objectifs.
C'est pareil pour la boulimie et l'hyperphagie boulimique, c'est la même chose.
Alors, la prise en charge pour la boulimie, finalement, ils atterrissent assez peu aux consultations programmées. C'est plus des enfants qui peuvent être hospitalisés en urgence, notamment pour des complications liées à des vomissements qui vont provoquer des troubles ioniques, hein, puisque c'est une des premières causes de mortalité dans la boulimie. Ça va être des troubles ioniques, notamment une baisse du taux de potassium dans le sang qui peut provoquer des troubles du rythme cardiaque, voire des arrêts cardiaques. Donc ça, c'est des enfants qu'on voit aux urgences, hein, qu'on voit pas en consultation. Et les jeunes, les patients qui ont une hyperphagie boulimie, on va les voir en consultation dans le cadre de bilan d'obésité. Voilà. Donc
il y a moins de suivi pour la boulimie, l'hyperphagie boulimique que l'anorexie.
Bah oui, parce qu'en fait la boulimie, elle peut passer inaperçue parce que en fait le poids est souvent normal et le mode d'entrée dans les consultations, c'est les problèmes de poids. Mm-hmm. Et comme en fait elles se font vomir, même si elles mangent beaucoup, ça se voit pas. Et puis finalement l'hyperphagie boulimique, on va avoir certes une obésité et un surpoids, mais avant de se rendre compte que ça va avec une problématique du comportement alimentaire, il faut un certain temps. Et c'est pour ça que finalement moins de la moitié des personnes sont prises en charge, parce qu'on ne s'en rend pas compte.
Oui, c'est effectivement compliqué. Alors, on a beaucoup parlé des filles, en fait, mais les garçons sont aussi parfois concernés. Notamment, je crois que l'hyperphagie boulimique, ça concerne beaucoup les garçons.
Oui, il y a quasiment autant de femmes que d'hommes qui souffrent d'hyperphagie boulimique.
Ce n'est pas du tout le cas de l'anorexie.
L'anorexie est prédominante chez les jeunes filles. C'est à peu près 10 filles anorexiques pour un garçon anorexique. Malgré tout, l'anorexie mentale est possible chez le garçon. On peut la rencontrer chez les jeunes garçons.
À partir du moment où il y a des soins qui commencent à être suivis, ça prend combien de temps? Et la guérison, elle intervient quoi? Quelques mois, quelques années après? Comment ça se passe? Quel est le cheminement?
On dit d'une manière générale qu'il faut... poursuivre la prise en charge au moins un an après l'amélioration clinique. Mais une amélioration peut finalement avoir lieu en une consultation, je vais vous dire, et peut aller jusqu'à 5 ans, parfois plus. Mais en général, on parle d'un an et demi de prise en charge.
J'ai l'impression que la prise en charge, en fait, elle est très individualisée, parce que vous avez du mal à m'en parler, à m'expliquer exactement comment ça se passe.
C'est exactement le cas. Chaque prise en charge doit absolument être individualisée, personnalisée, pour travailler l'alliance thérapeutique. C'est l'alliance qu'on va travailler.
Est-ce que c'est l'alliance thérapeutique?
L'alliance thérapeutique, c'est faire que le patient soit en confiance avec nous, soignants, qui croit au projet de soins, qui s'inscrive dans le projet de soins, qui aide à construire ce projet de soins, qui nous fasse confiance. Et ça l'aide, si vous voulez, aussi à se mobiliser, à motiver. Parce que on va l'accompagner d'un point de vue somatique et d'un point de vue psychologique. Mais finalement, c'est lui qui va trouver en lui les ressources pour...
Donc vous tissez des liens entre vous, donc médecin, et les enfants.
Tout à fait, on échange énormément pour ces prises en charge. Hein, vraiment, le binôme médecin-somaticien, psychiatre-pédopsychiatre est indispensable pour aider ces jeunes à s'en sortir. C'est très très important. On ne peut pas, un médecin clinicien seul ne peut pas aider un patient avec un trouble du comportement alimentaire à s'en sortir seul. Et inversement, il est compliqué pour un psychiatre ou un pédopsychiatre d'apporter tous les soins sans l'aide d'un médecin clinicien.
On dit souvent que la médecine avance. Vous avez remarqué que les choses avaient évolué là aussi sur les prises en charge et qu'aujourd'hui on en guérit plus facilement qu'autrefois. On a de nouvelles clés qui permettent de débloquer plus vite les situations. Alors sceptique, là, vous regardez.
Plus vite on va dépister le trouble, je pense, plus vite on va aider le patient à s'en sortir. C'est sûr que quand on voit arriver à nos consultations des patients qui ont des troubles des conduites alimentaires depuis plus de 3, 4, voire 5 ans, on sait que ça va être compliqué et qu'il va falloir énormément de temps pour les aider à sortir de leur problématique.
La question d'Isabelle, arrivée sur le site aussi du centre hospitalier de la Côte Basque. Isabelle nous dit ceci: mon fils de 14 ans a perdu du poids en peu de temps car il fait beaucoup de sport. Dois-je le surveiller? On sent qu'Isabelle s'inquiète.
Ah oui, Isabelle, elle a raison effectivement de s'inquiéter, parce que le fait que son fils maigrisse à cause d'une pratique sportive intensive doit l'alerter et doit l'encourager à consulter son médecin traitant. Donc l'anorexie, elle peut se manifester par des restrictions alimentaires, mais elle peut se manifester aussi par une pratique sportive à outrance. Quand on pratique énormément le sport et que l'alimentation n'est pas en adéquation avec la dépense énergétique liée à l'activité sportive, on va maigrir. Hein. C'est un petit peu, il y a un déséquilibre de la balance énergétique. Et manifestement, le fils d'Isabelle, est dans ce cadre-là. Donc, je l'encourage vivement à consulter son médecin.
On voit qu'il y a beaucoup de questions sur la prise en charge, parce que Rosalie a écrit ceci: je suis professeur et je pense que l'une de mes élèves est anorexique. Puis-je l'aider et comment? Ça, c'est moi qui le rajoute, le comment, mais...
Elle peut l'aider en l'adressant à son généraliste.
Peut-être en parlant aux parents, peut-être d'abord, non?
Alors, échanger avec la jeune fille, hein, prendre le temps de discuter avec elle, parce que comme il y a souvent un déni de la pathologie, prendre le temps de se poser avec elle de façon bienveillante et rassurante, lui expliquer qu'on est inquiet pour elle, et dans un deuxième temps, lui expliquer qu'on va prendre contact avec ses parents pour en discuter avec eux. Et il y a aussi les infirmières scolaires qui peuvent être une ressource pour les professeurs et les enseignants. Hein, les infirmières scolaires peuvent aussi mener ce type d'entretien et ensuite en référer au médecin scolaire qui fera le nécessaire pour accompagner, mettre en place un suivi.
Il est question des TCA ce matin, les troubles du comportement alimentaire dans la vie en bleu. Moi, je vous invite à venir nous rejoindre pour poser une question, bien sûr. Standard ouvert 59, 2 fois 17, 2 fois.
C'est la vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout.
Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment on fait?
même après Je t'aimerai, c'est la nouvelle chanson d'Oshi. France
Bleu. Bonjour, c'est Olivier Vinge. Retrouvez-moi tous les matins à 7h17 pour parler économie.
On a quelques points de vente sur le département en grande distribution.
On va s'intéresser en effet à des thématiques assez précises qui sont transversales et fédératrices.
La Nouvelle Écho, du lundi au vendredi à 7h17 sur France Bleu Pays Basque et à tout moment sur francebleu.fr.
Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Pays Basque.
Avec les docteurs Julie Halimi, pédopsychiatre, et docteur Aurélie Valade, pédiatre au centre hospitalier de la Côte Basque, on s'intéresse au TCA, aux troubles du comportement alimentaire. On a beaucoup parlé des adolescents, on a dit qu'ils étaient les premiers concernés. Quand on est adulte et qu'on soupçonne une TCA, j'ai l'impression que j'ai de moins en moins d'appétit, j'ai plus envie de manger, comment ça se passe et quelle est l'orientation là? C'est toujours la porte d'entrée, c'est toujours le généraliste ou...
Oui, exactement pareil, toujours le médecin généraliste et cette fois-ci, si le médecin généraliste pense que c'est nécessaire, il va orienter le patient vers l'endocrinologie adulte au centre hospitalier de la Côte Basque et notamment Madame De Marcy qui déjà depuis de nombreuses années gère une structure et a des lits d'ailleurs dédiés à la prise en charge notamment de l'anorexie mentale. Et sur le versant psychiatrique, je vais peut-être laisser le docteur Halimi en parler.
On a la chance à Bayonne d'avoir un réseau de santé qui s'appelle le réseau de santé d'Abanta. Je travaille dans un hôpital de jour qui en fait partie et donc qui prend en charge les adultes et les enfants qui ont des troubles alimentaires d'une façon très spécifique. Et puis aussi peut-être rappeler à nos auditeurs que il y a la maison des adolescents à Doenia qui est très connue sur Bayonne. Et vraiment, si un jeune veut parler de ce trouble sans en parler à son parent, peut les contacter. Et il y a de nombreuses autres associations auxquelles les familles peuvent faire appel, notamment la Fédération française anorexie boulimie, la FNATCA, l'Union des associations solidarité anorexie boulimie.
Il y a l'association Cocon aussi qui existe, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je veux qu'il nous a laissé un petit message sur Facebook à l'annonce de l'émission.
Alors, je ne connais pas cette association, mais effectivement, c'est toutes les bonnes volontés sont la bienvenue dans la prise en charge de ces patients. Moi, je souhaiterais citer une association qui s'appelle l'association Aldéane, qui a été créée par une professionnelle diététicienne psychothérapeute et qui, s'attache à accompagner les accompagnants, on va dire, des patients qui ont des troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire, cette association est là pour organiser des groupes de parole pour les parents, pour les conjoints, pour les familles des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire et notamment une anorexie mentale.
Et puis peut-être juste rappeler qu'il y a une ligne téléphonique qui a été mise en place en France, c'est Anorexie Boulimie Info Écoute et qui s'adresse aux professionnels, aux familles et aux patients qui peuvent appeler de manière anonyme et avoir des informations précises sur les troubles du comportement alimentaire.
Très bien, je vous parlais de Cocon, c'est Cocon 64 en fait, c'est une association qui aide les personnes qui souffrent de surpoids et d'obésité. Voilà, donc il y a un site internet cocon64.org. On est bien équipé ici sur la Côte Basque et au Pays Basque en général. On a toutes les structures nécessaires pour accompagner justement les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire.
On est plus équipé que de nombreuses autres régions. Après, bien sûr.
Donc on a toutes les structures, les associations, les.
Oui. Oui, on a beaucoup plus que dans d'autres régions. Et encore une fois, le réseau de santé d'Abanta est très reconnu sur le territoire français.
On parle beaucoup de qualité d'alimentation là depuis maintenant quelques années. Hein. On parle de production locale, de bio, tout ça. Est-ce que ça a un impact sur ces troubles du comportement alimentaire ou pas du tout? C'est complètement en fait.
Alors c'est vrai qu'on s'est posé la question avec le docteur Halimi de parler de ce qu'on appelle l'orthorexie. Il y a certaines personnes qui sont particulièrement attachées à faire attention à ce qu'elles mangent, ont peur de manger des choses qui sont nocives pour leur santé. Voilà, donc quand... ce qu'il faut retenir, c'est que quand ce comportement est poussé à l'extrême, il va engendrer une pathologie. Effectivement, il peut constituer un mode d'entrée dans l'anorexie mentale pour les patients qui ont ce trouble qu'on appelle l'orthorexie.
Si je comprends bien, il ne faut pas que ça devienne obsessionnel.
Exactement.
Il faut que ça se répète.
Voilà. Dès l'instant où le patient s'isole, où il perd ses centres d'intérêt habituels, où il devient en conflit autour de l'alimentation avec les gens qui l'entourent, ou professionnellement, il perd de l'efficience parce qu'il est, il est complètement obsédé, débordé par ses angoisses liées à l'alimentation. Là, il y a un problème et il faut consulter.
Et on ne peut négliger la participation socioculturelle de l'image du corps. Bien sûr, aujourd'hui, l'image du corps et par les réseaux sociaux a une grande importance et influence, bien sûr.
Tout ça est extrêmement lié, c'est ça ?
Oui, bien sûr. Il y a vraiment l'intrication de plusieurs facteurs, on le dit, biologiques, génétiques, psychologiques, familiaux et socioculturels.
Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur Julie Halimi, docteur Aurélie Valade. Merci d'être venu nous rejoindre ce matin. TCA.fr, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces maladies du comportement alimentaire. Merci d'avoir été avec nous.
Merci de nous avoir invités.
Merci de nous avoir reçus.
Au revoir.
La vie en bleu avec Orpi au Pays Basque. 20 agences pour vendre, louer et faire gérer votre bien en toute tranquillité.
La vie en bleu à retrouver sur FranceBleu.fr.